Donc, merci à vous tous qui sommes là. Je vous dis bonjour dans le Seigneur. Bonjour à toute l'Assemblée. Voilà, il m'est permis ce jour de vous partager avec vous la parole du Seigneur, d'apprendre des choses. Moi aussi, j'apprends des choses tout le temps en lisant la parole du Seigneur, en partageant comme cela. Donc, on découvre des choses. On avance. Pour les plus anciens, vous savez, vous vous souvenez, les dimanches passés, la chorale qu'on avait, qui se tenait tout le temps debout, qui nous emmenait dans des chants magnifiques, des louanges magnifiques, les Rebecca, Vanessa, Véronique, et j'en passe, ils nous ont fait partager des moments agréables. Ensuite, on a eu Jonathan Alphonse, mon fils Ludo aussi. Ensuite, on a eu Bernard qui nous a emmené aussi sa façon de louer le Seigneur le dimanche, qui nous a quitté pour le Sud. On a aussi le frère Georges qui est passé aussi, qui a eu sa façon de louer le Seigneur. On a eu Emma, la fille du pasteur Billy, qui nous a quitté aussi pour d'autres cieux. On a eu Georges aussi, Wade Pourlin, qui a eu sa façon aussi de louer le Seigneur. Mais en ce jour, je dis merci au Seigneur de voir
Eric.
Stéphane qui n'est pas là pour divers problèmes, vous connaissez déjà, puisque Cindy est rentrée à l'hôpital. Elle a perdu les os dans la nuit. Pardon? Anaël, tout à fait. Et aussi Alexandra qui nous a emmené aussi sa façon de louer le Seigneur. Et aussi le frère aussi Willy Bonhomme qui n'est pas là aujourd'hui, qui est sûrement en vacances. Et vous aussi avec vos chants là, j'ai entendu des chants magnifiques. Là aussi c'est une belle façon de louer le Seigneur. On a tous une thème de voix différente. On a tous quelque chose à amener au Seigneur, par nos voix, par nos chants. Donc pour cela je dis merci. Parce que les trois là qui restent là, Eric, Stéphane et Willy Bonhomme, eux aussi nous amènent des trucs magnifiques le dimanche. Donc merci au Seigneur. Voilà. Donc frères et sœurs, vous savez, durant ces derniers temps, chacun et chacune, on a été confrontés à des moments difficiles. La tempête a soufflé pour certains. La lumière qui au départ brillait s'est voilée pour d'autres et s'est éteinte. La maladie s'est introduite dans les corps. Nous avons même été confrontés à la séparation physique d'un être cher. Il y a eu des complications, des incompréhensions dans les familles. Même certains de nos frères et sœurs portent encore des séquelles d'actes de violence vécus. Durant ces derniers temps, certains de nos prières sont restés sans réponse. Le trouble s'est installé. Nous nous sommes posés des questions existentielles. Selon le Larousse, les questions existentielles, c'est questions posées qui nous poussent à réfléchir, mais auxquelles on ne trouve pas de réponse. Malgré toutes les circonstances de la vie, le Seigneur nous appelle à ne pas abandonner. Il nous dit en ce jour, repose-toi s'il le faut, mais n'abandonne jamais. C'est pas le thème de la prédication, c'est juste, je voulais partager ça avec vous, pour vous encourager, pour vous motiver à ne pas abandonner, quelles que soient les circonstances de la vie. Parce que la vie, quelquefois, elle est pas évidente, il y a des secousses, Mais le Seigneur nous dit, n'abandonne jamais, repose-toi s'il le faut, et reprend le chemin de la vie. Voilà. Frères et sœurs, en ce dimanche, mon thème sera « Vivre dans l'unité et dans l'amour ». En quelque sorte, l'amour fraternel. Et avant de parler du Seigneur, on va quand même prier pour remettre ces moments dans les mains du Seigneur. Notre Père de Dieu, Seigneur, encore en cet instant, Seigneur, que tu nous donnes à partager ta parole, nous voulons le faire, Seigneur, avec assurance, avec sincérité, parce que ta parole est la vie éternelle. Mais Seigneur, pour cela, nous voulons aussi que tu puisses être à côté de chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu, afin de nous éclairer, Seigneur, de nous supporter, de nous parler, Seigneur mon Dieu, afin que ta parole puisse entrer dans nos cœurs les plus profonds et qu'il puisse aussi faire, Seigneur, ses effets. Que ta parole puisse rentrer dans nos vies et puisse pas ressortir sans effet, mon Dieu. Nous voulons que ta parole puisse fructifier et porter des fruits. Et Seigneur, que le plus grand nombre, Seigneur, ceux qui sont à côté encore, Seigneur, puissent rentrer dans ta bergerie et te découvrir et te connaître. Nous l'avons fait depuis un certain temps. Nous voulons aussi que les autres, Seigneur, puissent le faire. Car Seigneur, tu es aussi leur Dieu. Alors Seigneur, prends toute la place qui t'est due maintenant et pour toujours. Et que ton nom soit glorifié dans ces moments. Amen. Voilà, frères et sœurs, je voulais partager le psaume 133 avec vous. C'est un psaume qui n'est pas très long. En lecture, il n'est pas très long. Il n'est pas très long. Mais quand on le décortique, nous allons voir que ce texte nous interpelle. Les enseignements que nous pouvons tirer de ce texte nous éclaireront sur les bénédictions qu'une vie d'église peut nous apporter. Je vais le lire. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements, pardon. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie les bénédictions, la vie pour l'éternité. Dans ce texte, une image nous est décrite. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête d'Aaron qui coule jusqu'à sa barbe et qui descend sous le bord de ses vêtements. Merci. Nous savons que l'huile, c'est une image qui représente aussi la douceur. C'est quand on verse l'huile fait pas de bruit. L'eau fait du bruit. L'huile fait pas du bruit. Et l'huile, c'est aussi une source, une image de la bénédiction que l'Éternel peut faire descendre sur une église. L'image que l'huile qui est versée sur la tête d'Aaron, qui coule jusqu'à sa barbe, jusqu'à ses vêtements, nous allons voir plus loin après, cela représente la douceur et aussi la bénédiction. Dans ce même psaume, c'est pour ça que je dis qu'il est petit, mais il y a beaucoup de choses à apprendre de ce psaume. Deuxième image nous est représentée, c'est comme la rosée de l'Hermon. Qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. L'Hermon, c'est une montagne sacrée à trois sommets. C'est la plus haute de la Palestine. D'où coule cette source de bénédiction qui est le Jourdain. Tout le monde connaît le Jourdain, cette source. Et la Bible dit qu'il descend sur Sion, sur le Jérusalem, sur les montagnes de Sion. Vous savez, peuple de Dieu, une église, elle est composée de cultures différentes, d'origines différentes, de classes sociales différentes. Mais tous nous formons un seul corps, dans l'union. L'église est ce lieu spirituel où frères et sœurs se réunissent pour louer le Seigneur. Quand on entre, on franchit cette porte. Quelquefois, on la franchit fatiguée, chargée. Mais on vient pour un seul but. C'est de se ressourcer à travers la parole de Dieu. Entre frères et sœurs. Mais nous savons aussi que dans ce lieu-là, que Dieu aussi fait descendre ses bénédictions. Verset 3. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Plus d'une fois, on a franchi cette porte fatiguée, chargée, avec nos fardeaux. La semaine a été difficile, fatiguée avec les enfants. Et plus d'une fois, on est ressorti aussi soulagé. Parce que la parole de Dieu nous a soulagés, nous a apaisés. Frères et sœurs, nous avons ce titre de chrétien pour Christ. Mais être chrétien, c'est aussi prendre soin de l'autre, de s'occuper de ses difficultés, de partager ses peines et ses douleurs. C'est aussi une façon de servir Dieu, de s'occuper de l'autre, de le rendre visite, de l'appeler, de le rendre service. Nous devons de temps en temps aussi prendre selon une disponibilité de partager avec les frères et sœurs, soit un repas, un dîner, voire organiser des discussions, des rencontres entre frères et sœurs, afin de nourrir la fraternité à laquelle nous sommes appelés à garder. La vie chrétienne ne s'arrête pas après le culte du dimanche. Chacun rentre chez soi, c'est fini, non. C'est une continuité qui doit se manifester chaque jour de notre vie. Nous nous rendons régulièrement à des rencontres religieuses, mais quelquefois nous ne vivons pas vraiment ensemble comme une famille chrétienne doit le vivre et conformément aux enseignements. Sommes-nous pas appelés à soutenir la famille, à restaurer la famille et surtout à vivre comme une famille? Il est vrai, c'est vrai, vous avez me dit que cette crise sanitaire nous a changé nos comportements. Elle nous a peut-être peu à peu éloignés. C'est vrai, je le reconnais. C'est vrai que physiquement, les choses qu'on partageait ensemble, les moments qu'on profitait ensemble, on faisait en commun, sans crainte, sans contrainte, ne sont plus d'actualité pour l'instant. Ils seront poussés à des jours meilleurs. On a eu beaucoup d'idées, on voulait faire des choses, mais bon, avec cette crise, bon, on est un peu en retrait. C'est vrai. C'est normal. On doit prendre les précautions qu'il faut. On suit les directives du gouvernement. Mais, par contre, cette crise, elle ne doit pas nous éloigner pour autant. Malgré cela, elle est là. Mais elle doit nous unir de plus belle. C'est un combat à gagner. Alors, une question se pose. Pendant ces moments de confinement qu'on vient de subir et qu'on continue encore à subir, as-tu pensé à ton frère une fois? As-tu pensé une fois à ta sœur que tu vois pas, quelquefois, qui vient plus à l'église? A-t-il ou a-t-elle reçu un coup de fil de toi? Es-tu venu en aide quand la demande était présente? Alors là, si c'est non, nous devrions nous questionner. Afin de faire un bilan et de savoir si nous avons honoré Dieu par nos comportements. Car se dire chrétien et de ne pas voir ton frère depuis un certain temps, même s'il y a confinement, et ne pas prendre des nouvelles de lui, donc il y a quelque chose, on doit se remettre en question. Je ne dis pas vous devriez vous remettre en question, on doit se remettre en question, tout le monde doit se remettre en question. Souvent, nous adorons Dieu par des comportements extérieurs. Mais frères et sœurs, notre cœur est-il vraiment converti? Ésaïe 29. Je vais le lire. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il parle de son peuple, Israël, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi, ce n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est fort, hein? C'est le Seigneur, il connaît les cœurs. Il voit, hein? On l'honore de la bouche et des lèvres, mais dedans, ce n'est que du vent. Je viens à l'église, je chante, je loue. Dehors, c'est fini, hein? Le vent m'emporte, je suis parti. Frères et sœurs, voulons-nous ressembler à ce peuple qui honore Dieu avec la bouche et les lèvres, le dimanche et le mardi, mais à qui, véritablement, la crainte de Dieu n'est pas présente? Je pense que c'est non pour nous. Nous voulons faire le contraire. Si nous nous trompons, nous diffamons, nous flattons les autres, si nous causons des problèmes en l'air, si nous tombons dans l'exagération, nous ne pouvons pas atteindre à goûter à la présence de Dieu dans nos vies. Bien plus encore, si nous restons satisfaits et satisfaites de nos pratiques religieuses, là je fais ci, je fais ça dans l'église, ok, c'est bien, tu participes, mais bon. Mais s'il te manque aussi des actions humaines envers les anciens, qui ont toujours besoin de nous à certains moments de leur vie, ben, c'est comme un contre-tout dans l'eau. Gardons-nous des traditions humaines, mais nourrissons véritablement la communion fraternelle où Dieu prend plaisir de voir ses enfants unis. Vous savez, la Bible dit à la fondation de l'Église, c'est comme le début que je vais vous dire, c'est divers peuples, diverses classes sociales. À la fondation, la Bible dit que divers peuples se réunissaient. Ils ont commencé à entrer dans une dynamique d'unité, d'unité d'esprit, d'unité. Et dans Actes 2, versets 45, il va plus loin. Il dit que les nécessiteux, ils avaient reçu de l'aide, commencé à recevoir de l'aide. Tu vois, la crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun, ils se réunissaient tout en commun, tous leurs biens. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité. Est-ce que cela est d'actualité en ce moment? On peut réfléchir là-dessus. Hein. Ce dynamique qu'ils avaient de se réunir comme ça, de partager leurs biens entre eux. Les nécessités recevaient leur part. Tout le monde avait une part. C'était le partage. On peut réfléchir là-dessus. Chacun peut se questionner. Moi aussi, je le fais, mais je fais ma part. L'Église est appelée à faire du bien de l'intérieur afin que rejaillisse l'amour à l'extérieur. Si dans le centre, il n'y a pas d'amour, on ne peut pas en rejeter à l'extérieur. Si l'amour ne vient pas du centre, le monde qui nous regarde, ils ne pourront pas recevoir de l'amour. Parce que l'amour rejaillit de l'intérieur, du cœur. Donc il nous manque encore, il me manque encore cette pleine maturité spirituelle afin d'ouvrir mon cœur, nos cœurs, sans hésiter au service de l'autre. Nous savons que c'est notre mission sur cette terre, c'est de proclamer l'Évangile, proclamer la bonne nouvelle, le salut de Dieu à toutes les classes sociales, pauvres et riches. Le pauvre, il a autant besoin que le riche. Le riche, il a autant besoin que le pauvre. Notre communauté, nos rassemblements, nos églises doivent être un lieu où l'on voit de diverses classes sociales réconciliées et unies. C'est un lieu aussi, soit marié, soit célibataire, doivent s'épanouir dans l'amour, l'amour fraternel. Si l'amour ne s'exprime pas dans ta vie, comment peut-on se projeter vers l'avant? Si tu en veux encore à ton frère et à ta sœur, parce qu'à un certain moment, il y a eu des différences entre vous, sache que cela fait tâche et que le Seigneur, il ne peut bénir à cause d'un seul. Que ton cœur sache pardonner. que ton cœur sache aller vers ton frère et dire pardon. J'ai calmé mon nez, j'ai dit peut-être des mots qui déplacés. En ce jour, je te demande pardon. Et là, le Seigneur fera descendre ses bénédictions. Éphésiens 4, versets 2 à 3. C'est Paul qui parle. Il dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Le monde nous reconnaîtra comme appartenant à Christ s'il y a de l'amour entre nous, les uns et les autres. Mais reconnaissons-nous toujours, remplissons-nous toujours ce mandat envers l'autre. Pourtant, chaque être humain, elle est précieuse aux yeux de Dieu, quelle que soit son origine, sa classe sociale. Elle est précieuse aux yeux de Dieu. Donc, comme Zacharie 7, verset 10, nous devons nous soucier des besoins des pauvres, des immigrés, des veuves et des orphelins. C'est la Bible qui le dit. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre. Et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais ils refusèrent d'être attentifs et ils eurent les pôles rebelles. Et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Mais dans ce Zacharie, je vais peut-être monter un peu plus haut. Aller un petit peu plus haut, verset 7 de Zacharie, même de partie du 8. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez pour l'autre de la bonté, de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas les uns contre les autres dans vos cœurs. Jésus lui-même, il avait ordonné à ses disciples d'accueillir régulièrement chez eux des personnes pauvres et des handicapés. Luc 14, verset 13. Je répondais à 12. Il dit à celui qui l'avait invité, parce que le Seigneur, il dînait avec un des chefs pharisiens, donc il lui dit, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni les frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qui te l'invite à leur tour, qui te rendent l'appareil, quoi. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te le rendre l'appareil. Car il te le sera rendu à la résurrection des justes. C'est une belle image, ça. Hein? D'être invité par quelqu'un, à tous les coups, si tu es invité, tu voudrais faire l'appareil. Parce que tu peux. Moi, je me souviens d'avoir passé un très bon moment avec la famille Oulaï au départ, quand ils s'installaient. Ils se sont installés sous Bonneuil. On a partagé un bon petit dîner. Et mon épouse et moi, on s'est toujours dit, il faudrait qu'on rende l'appareil, puisqu'on peut. Bon. Mais le Covid nous a rattrapés, donc c'est toujours d'actualité. Mais l'appareil, c'est parce qu'on peut. Mais en fin de compte, ça doit pas rester comme ça tout le temps. Ces partages-là ne doivent pas être comme ça tous les jours. C'est parce que Eric peut. Moi, je pourrais, donc je vais l'inviter à tour de rôle. Et ce sera presque un cercle fermé. Les autres sont toujours dehors. C'est ça que la Bible veut nous dire. Les boiteux, les estropiés sont toujours dehors. Nous savons bien que quand on partage un repas, un dîner, il y a discussion. Donc chacun apporte sa petite phrase, il y a des échanges, on apprend des choses, l'autre apprend des choses. Et surtout si c'est des chrétiens, donc c'est toujours autour de la parole des seigneurs, autour de partage. Mais en fin de compte, ce que veut dire la Bible, c'est qu'on ne peut pas tout le temps partager entre nous. Ça ne peut pas rester. Il faudrait que ça aille au-delà. Au-delà des barrières. Au-delà des frontières. Ce ne soit pas un cercle fermé. Mais si tu invites des boiteux, des paralytiques, des estropiés, et que tu leur parles du Seigneur, ou tu leur parles de la parole de Dieu, ah ben là, ils vont découvrir quelque chose qu'ils ne savaient pas. Mais si Eric m'invite, peut-être qu'Eric, on va discuter entre nous, on va parler des choses qu'on connaît, de la parole du Seigneur. Voilà. Mais le estropié, le boiteux, je lui apporte quelque chose de nouveau. Donc c'est une image, mais elle est forte cette image de partage, d'aller vers l'autre, de lui apporter quelque chose de nouveau. Que le Seigneur puisse nous donner à réfléchir là-dessus. Se soucier des pauvres, des immigrés, des veuves, des orphelins. Accueillir chez soi des estropiés, des aveugles, des boiteux. C'est vrai que dire et de le faire, c'est pas évident. C'est sûr, je le comprends. Moi, je le comprends. Je me à la place de tout le monde. Mais la Bible nous le dit. S'il est écrit, c'est pas pour rien. Ok. Dans Apocalypse 2, peut-être pas, tu l'as pas, versets 4 à 5, je sais pas si tu l'as vu, non, pas grave. Le Seigneur y reproche aux membres de l'église d'Éphèse d'avoir perdu son premier amour. Mais là, c'était pas pour punir, le Seigneur, c'était pas pour punir. Mais afin que cette église puisse se redresser. Nous savons tous que la routine dans une église, quand elle est installée, cette routine, ça peut nous faire aussi perdre la face du Seigneur. Parce qu'on se dit tout est facile, c'est la routine dans l'église, ça se marche bien, ça marche comme sous des roulettes, le pasteur il est là, les frères sont là, on y va, hop. Les chants sont là, hop. Non. La preuve, c'était une grande église, l'église d'Éphèse. Et pourquoi le Seigneur lui dit, dans Apocalypse 2, versets 4 à 5, ce que je reproche aux membres de l'église d'Éphèse, parce qu'ils ont perdu le premier amour. Frères et sœurs, que notre âme soit ranimée, que nos yeux soient ouverts de nouveau, afin de contempler la gloire et la grâce de Dieu. Que le Seigneur puisse nous donner une autre vision de l'Église, afin de devenir une vraie famille. Si nous le sommes, c'est bien. Continuons dans ce sens de partage, de soutien, d'amour fraternel. Mais si nous ne le sommes pas, remettons-nous en question. Si c'est oui, alors les bénédictions seront pour nous, pour nos proches, pour nos descendances. Amen.